À Washington, Henri Francisque.
Midi à Bamako, 13h à N'Djamena, bienvenue à notre journal. Au Mali, ouverture aujourd'hui du forum de Kidal et ce sans la participation de la plateforme et du gouvernement malien. La CMA est déterminée à organiser cette rencontre sans les deux autres parties. Les explications de notre correspondant au Mali, Kassim Traoré.
Le forum de Kidal s'ouvre ce lundi 28 mars au lieu du 27. La CMA et la plateforme s'étaient donné la main pour la bonne organisation de cette rencontre avec la participation du gouvernement. Mais à la dernière minute, l'idée de ne pas inviter le gouvernement proposé par la CMA n'a pas été acceptée par la plateforme. Pour la plateforme, le forum devrait être une occasion pour faciliter le retour de l'administration à Kidal, l'armée et certaines structures étatiques. La CMA ne voit pas les choses de cette manière. Elle a pris acte de la requête verbale du gouvernement pour un report du forum, mais dit avoir regretté cette demande qui a été notifiée tardivement. C'est pourquoi la CMA a poursuivi avec l'organisation du forum aux dates indiquées. Aux dernières nouvelles, une délégation de la plateforme est arrivée à Kidal avec à leur tête un officier malien pour voir comment un terrain d'entente peut être trouvé. En tout cas, les délégués de la plateforme étaient toujours bloqués à Gao, le temps de voir clair dans cette situation. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Controverse au Bénin suite à l'annonce dimanche selon laquelle le président sortant Thomas Yayi Boni n'a jamais perçu de salaire durant ses 10 ans à la tête du pays. Un compte rendu du Conseil des ministres du 26 mars précise que le chef de l'État béninois n'a pas non plus perçu diverses indemnités liées à son poste et qu'il a aussi rendu compte de sa gestion d'un fonds secret de 150 millions de francs CFA prévu par la Constitution. Le président du Front des organisations nationales de lutte contre la corruption du Bénin, Jean-Baptiste Elias, ne cache pas son étonnement.
Il y a lieu de se poser des questions. La première question, comment on peut assurer une fonction sans avoir un salaire? La deuxième question, de quoi a-t-on vécu pendant ces 10 ans? La troisième question, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, derrière cette idée de percevoir d'une manière autre que l'officiel des subsides ou bien de l'argent que l'on ne sait pas exactement d'où cela provient. Ce qui est certain, c'est que nous, organisation de la société civile, nous allons demander à la prise de service du nouveau président le 6 mars prochain que l'audit se fasse au niveau des ressources allouées à la présidence de la République pour savoir si éventuellement il y avait une ressource qui était allouée et qui servait donc au président de la République de pouvoir vivre si tant est que un salaire officiel ne lui est pas donné.
Jean-Baptiste Elias, président du Front des organisations nationales de lutte contre la corruption au Bénin.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Afrique centrale maintenant, en RCA, le président élu Faustin Archange Touadéra sera investi mercredi à Bangui. Dernier chef du gouvernement de François Bozizé, ce professeur de mathématiques hérite à 58 ans d'un très lourd passif économique, sécuritaire et aussi social. Michel Joseph.
Faustin Archange Touadéra sera immédiatement confronté à l'urgence de redresser un pays en ruine et profondément divisé par 3 années de violence intercommunautaire. Formellement, la transition n'est cependant pas totalement achevée. Les Centrafricains ont certes adopté par référendum la constitution de la 6e République et élu leur président, mais le Parlement n'est toujours pas en place. Le second tour des législatives, plusieurs fois reporté, est désormais prévu jeudi, le lendemain de l'investiture du chef de l'État. La Centrafrique, un des pays les plus pauvres de la planète, malgré son potentiel agricole et minier, est resté coupé un moment de ses recettes du fait de sa mise en coupe réglée par les groupes armés qui se sont érigés en douaniers, cadres des impôts. Dès l'annonce de son élection, M. Touadéra avait assuré mesurer le poids de la charge qui l'attend.
Au Tchad, les 4 leaders des organisations de la société civile arrêtés la semaine dernière sous mandat de dépôt du procureur de la République sont toujours en prison. Les partis politiques de l'opposition démocratique ont tenté de se constituer prisonniers, les leaders, ce week-end sans succès. Ils ont été bloqués aux portes de la maison d'arrêt, comme l'a constaté le correspondant de la Voix d'Amérique de la VOA Afrique au Tchad, André Kodmajingar.
Cette vive altercation entre les responsables de la maison d'arrêt et une vingtaine des partis politiques de l'opposition démocratique à l'entrée de la maison d'arrêt d'Amsinène ce samedi a duré environ une heure. Parmi ces personnalités politiques figurent ceux qui sont engagés dans la course pour l'élection présidentielle d'avril prochain. Le directeur de l'administration pénitentiaire Adam Guett tente de calmer ses leaders politiques qui ont décidé unanimement de se constituer eux-mêmes prisonniers en solidarité de ces quatre activistes des droits de l'homme incarcérés.
Dans l'administration pénitentiaire, quelqu'un sans mandat de dépôt m'a aidé pour passer par une institution de la police judiciaire. Nous, la loi nous interdit de prendre quelqu'un sans mandat de dépôt. Nous, on a 1600 détenus ici. Ne sommes pas des troubles à ce que les autres profitent derrière vous pour commettre des bêtises.
Le porte-parole de ces leaders rejette cette proposition et durcit sa position. Aladoum Djarma Balthazar.
Nous sommes ici, là. C'est pas pour avoir de problème avec vous. La maison d'arrêt, là, beaucoup de... Moi, personnellement, je suis déjà passé par ici. Nous sommes venus, là. Allez, restez avec nous. Comme vous, vous n'êtes pas habilité à nous faire entrer comme ça. Ceux qui signent le papier pour amener les gens ici, là, vous collaborez avec eux, non? Vous leur dites que les gens sont là, c'est tout.
Après 4 heures de tractation avec les agents du service de sécurité et prenant acte de la proposition du directeur de l'administration pénitentiaire qui s'engage à les mettre en contact avec le médiateur et le procureur de la République, ces leaders politiques ont décidé de quitter le lieu. Aladoum Djarma Balthazar se dit satisfait de cette action, même si l'objectif principal n'est pas atteint.
L'objet, c'est d'arriver à établir le dialogue. Nous avons mis en marche notre stratégie. Ce n'est qu'un premier pas. Nous avons réussi à mettre en difficulté les forces de l'ordre, en même temps le personnel de la maison d'arrêt. Nous nous sommes dit que nous nous constituons prisonniers après 24 heures de la date du 25. Aujourd'hui, nous sommes venus, nous n'avons pas pu, c'est vrai, mais rien ne dit que demain on le pourra. Si on rencontre le procureur, on rencontre aussi le médiateur, et que cela ne nous donne pas satisfaction, on serait obligé de passer à la vitesse supérieure de notre exigence, même s'il faut pousser les gens à la faute, on va les pousser, ils finiront par nous garder.
La journée du lundi étant fériée, l'Union des syndicats du Tchad et le Syndicat national des travailleurs des affaires sociales et de la santé du Tchad entendent observer une grève sèche sur toute l'étendue du territoire à partir de ce mardi 29 mars, si les quatre leaders arrêtés ne sont pas libérés. La coalition, ça suffit quant à elle, décale sa marche pacifique prévue pour le 29 mars au 5 avril prochain. André Kodumadjingar Ndjamena, La Voix de l'Amérique.
Burundi, vive sortie du CNDD-FDD, parti au pouvoir dans le pays contre le Rwanda. Cette formation politique accuse le Rwanda de chercher à exporter le génocide. Le laboratoire du génocide est au Rwanda car le président Kagame l'a expérimenté chez lui et veut l'exporter au Burundi, affirme le texte signé par Pascal Nyabenda, le président du CNDD-FDD. Le Burundi est plongé depuis fin avril dans une violente crise qui a fait plus de 400 morts et 250 000 réfugiés, dont 75 000 au Rwanda. Faut-il s'inquiéter de la nouvelle hausse des tensions entre Kigali et Bujumbura? La réponse de Fabien Chisha Ayo, professeur de communication à l'Université de Montréal.
Dans notre histoire, il y a toujours eu des passes d'armes comme ça entre le Burundi et le Rwanda. Ceux qui sont dans certains âges se rappellent, par exemple, de l'empoignade entre Michombero et Kayibanda par les radios nationales interposées. Mais bon, ça n'a pas eu vraiment de conséquences. Moi, j'estime qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Vous savez, les jumeaux, surtout les faux jumeaux comme le Rwanda et le Burundi, ont toujours des raisons de se chicaner, comme on dit ici au Québec. Mais bon, disons que dans l'état actuel de relations entre les deux pays, même si évidemment il y a un froid entre les deux, ça ne va pas avoir de conséquences.
Fabien Chihasha Hayo, professeur de communication à l'Université de Montréal au Canada.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Attentat de Bruxelles, le bilan des attaques du 22 mars dans la capitale belge s'élève maintenant à 35 morts, 4 blessés graves ayant succombé à l'hôpital des suites de leurs blessures. Par ailleurs, la police belge a diffusé aujourd'hui sur son compte Twitter une vidéo du troisième suspect des attaques à l'aéroport de Bruxelles-Zaventem, l'homme au chapeau, dans l'espoir de l'identifier. Jusqu'à présent, seules des photos de cette personne avaient été diffusées dans le cadre d'un avis de recherche. Selon une source proche de l'enquête, la police travaille encore sur l'hypothèse selon laquelle cet homme pourrait être Faisal Chefou, seul inculpé et écroué dans le dossier pour le moment. Et enfin, l'attentat de Lahore au Pakistan qui a fait au moins 72 morts dimanche. Le pape François a demandé aujourd'hui aux autorités pakistanaises de tout faire pour assurer la sécurité de la population et en particulier celle de la minorité chrétienne qui était visée en premier par cet attentat. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.